L'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Paris et Washington appellent la Russie à faire pression sur la Syrie pour respecter la trêve de l'ONU dans la Ghouta orientale, analyse de Nadine Epstein dans cette édition. Les craintes d'une guerre commerciale relancée au lendemain de l'annonce par le président américain de la taxation prochaine des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner, vient de tweeter Donald Trump. Explication avec David Ravier. Réaction à Bruxelles de Pierre Bénazé. Theresa May doit défendre aujourd'hui l'idée d'un accord de libre-échange le plus large possible avec l'Union européenne, mais il reste à trouver une solution pour la question de la frontière entre les deux Irlandes qui matérialise en fait la rupture. Correspondance d'Antoine Gignot. Le dernier jour de campagne en Italie avant le scrutin de dimanche. On retrouvera sur place Mathilde Imberti. Et puis en France, le gouvernement dévoile son arbitrage sur l'assurance chômage. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, déclare qu'elle ira plus loin que les partenaires sociaux sur l'indemnisation l'indemnisation chômage des démissionnaires. Explication avec Catherine Pétillon, l'invitée de la séquence interview. Emmanuel Morel, député socialiste européen, candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
La poésie dans le siècle, au 21e siècle. On en parle aujourd'hui avec nos invités à l'occasion de l'ouverture de la 20e édition du Printemps des Poètes. Sophie Nolot, écrivaine et directrice artistique, toute fraîchement nommée de ce Printemps des Poètes, sera avec nous dans la deuxième partie de la grande table, accompagné de Marc-Alexandre Ohobambé, qui est déjà avec nous en studio, bonjour, et qui répondra peut-être à certaines de vos questions, réagira à l'actualité. Il signe quant à lui un très doux Dien Bien Phu, un roman qui multiplie les formes chez Sabine Vespizer. Antoine.
On commence par ces attaques en cours, on vient de l'apprendre, dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, notamment près de l'ambassade de France. Certains témoignages font état d'explosions, près de l'état-major des armées aussi, burkinabé, et de l'Institut français. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il semble que ce soit la représentation française, en tout cas, qui soit visée dans cette attaque. Quelle précision dispose-t-on pour l'instant?
Eh bien d'abord, rester confiné, c'est ce qu'indique la page Facebook de l'ambassade de France et de l'Institut français, tous les deux donc dans le centre de Ouagadougou, en environ 1 kilomètre l'un de l'autre. En fait, selon les témoins, un groupe de 5 hommes armés est sorti d'une voiture près de l'ambassade de France, a tiré sur les passants avant de se diriger vers l'ambassade. Et puis, pendant ce temps-là, une explosion était entendue 1 kilomètre plus loin, près de l'Institut français et près du QG des forces armées de Ouagadougou, juste à côté de l'Institut, qui a également été visé. C'est la troisième attaque majeure qui touche le centre de Ouagadougou après celle de l'été dernier, le restaurant Aziz Istanbul, et celle de janvier 2016. Pas de revendication évidemment pour l'instant. L'année dernière, on soupçonnait le GSIM, groupe pour le soutien de l'islam aux musulmans. Je rappelle juste que cette attaque intervient justement alors qu'une nouvelle vidéo de l'otage française de ce groupe, Sophie Petronin, vient d'être diffusée et puis que les capacités militaires des États de la région se renforcent.
Xavier Martinet, merci beaucoup pour ces premières précisions donc sur ces attaques dans le centre de Ouagadougou qui semblent viser notamment l'ambassade de France. Alors que les forces gouvernementales syriennes poursuivaient ce matin leur offensive dans cette plaine de la Ghouta orientale à l'est de Damas, Paris et Washington prennent conjointement l'initiative d'appeler la Russie à faire pression sur la Syrie pour que cette trêve décrétée par l'ONU soit enfin respectée. L'Élysée fait état d'un entretien téléphonique entre messieurs Macron et Trump. Et puis il y a un communiqué de la présidence qui dit que la France et les États-Unis ne vont plus tolérer l'impunité en cas d'utilisation avérée d'armes chimiques. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi donc cette initiative conjointe qui d'ailleurs est prise aussi avec les Allemands ce matin sur la Syrie?
Eh bien cet appel commun est lancé au lendemain du discours de Vladimir Poutine devant le Parlement où le président russe s'est présenté en chef militaire vantant les nouvelles armes invisibles de Moscou et demandant aux Occidentaux d'écouter. Il intervient également 6 jours après l'adoption par le Conseil de sécurité, Russie compris, de la résolution d'un cessez-le-feu de quelques heures, mais qui n'est pas respectée sur place. Hier encore, une quarantaine de camions humanitaires chargés de nourriture et de médicaments n'ont pas pu entrer dans la clave de la Ghouta. Troisième point, un enfant qui décède, un homme qui suffoque. Au moins 14 personnes ont été asphyxiées lors d'une attaque au gaz de fluor sur la Ghouta orientale, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 2 semaines de bombardement des forces gouvernementales syriennes ont tué au moins 500 personnes. L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a ouvert une enquête pour vérifier si des armes chimiques ont bien été utilisé. En revanche, il ne lui revient pas de désigner qui s'en est servi. Et c'est pourquoi les États-Unis ont présenté hier au Conseil de sécurité un projet de résolution qui charge une commission d'investigation onusienne pendant un an d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en Syrie. Les États-Unis et la France, vous l'avez dit, ont ensemble déclaré qu'ils ne toléreraient pas l'impunité en cas d'utilisation avérée d'armes chimiques en Syrie. Et Emmanuel Macron d'ajouter qu'une réponse ferme serait apportée, sans toutefois plus de précision.
Nadine Epstein, merci. Et puis les combats se poursuivent aussi dans l'enclave d'Afrine au nord. Au moins 14 combattants pro-régime, 3 membres des forces kurdes qui sont leurs alliés en la circonstance, auraient péri dans des frappes turques. La Turquie, qui est aidée par des groupes rebelles syriens, mène depuis le 20 janvier une offensive pour déloger de cette région la milice kurde des unités de protection du peuple. Les principales bourses européennes évoluent à la baisse depuis ce matin. Réaction au programme de Donald Trump pour l'acier américain. Hier, le président des États-Unis annonçait son intention d'imposer dès la semaine prochaine de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Donc aux États-Unis, c'est une annonce qui a suscité de très nombreuses réactions depuis ce matin, qui relance les craintes de guerre commerciale, susceptible aussi de peser sur la croissance économique mondiale. On va y revenir. Un mot d'abord de ce qu'a annoncé le président américain. Donald Trump dit vouloir imposer des droits de douane, 25% pour l'acier, 10% pour l'aluminium. Et puis, dans son dernier tweet, il vient d'affirmer que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Déclaration assez surprenante, David Ravier.
Ces dernières semaines, Donald Trump réfléchissait à imposer des quotas sur l'acier et l'aluminium importés, voire à surtaxer ces matériaux en fonction de leur provenance. Il s'est finalement ravisé pour mettre en place de nouvelles taxes douanières de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. Ces décisions font suite au rapport remis au président américain en janvier dernier par son ministre du Commerce Wilbur Ross. Ces nouvelles taxes douanières voulues par Donald Trump serviraient donc pour lui à protéger les emplois de ce secteur d'activité, mais également à mieux gérer les quantités de ces métaux dont l'armée américaine a besoin pour se défendre. Selon les mots du président, l'industrie de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis ont été décimées par des décennies de commerce inéquitable. Donald Trump estime donc que ces deux métaux ont été victimes de dumping, c'est-à-dire que les matériaux importés coûtaient moins cher que ceux produits sur le territoire, ce qui créerait potentiellement un déficit pour le pays. Il faut dire que les États-Unis sont les plus gros importateurs d'acier au monde, puisque cela représente 27% de la quantité annuelle écoulée sur le territoire. Cette nouvelle mesure de protectionnisme permettrait aux États-Unis d'engranger plus d'argent dans ce secteur, mais pourrait avoir de graves conséquences sur le plan du commerce international, où beaucoup de pays exportent de l'acier et de l'aluminium vers les États-Unis. Outre l'Union européenne, la Chine, la Russie, le Brésil ou encore la Corée du Sud, l'un des grands perdants de cette nouvelle taxe serait le voisin canadien qui compte à lui seul pour 16% des exportations d'acier aux États-Unis.
David Ravier, merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de grandes puissances commerciales qui réagissent ce matin. D'ailleurs, toutes les grandes puissances, la Chine qui demande aux États-Unis de réfréner son recours à des mesures protectionnistes, le ministre canadien du Commerce qui affirmait dès hier que tout tarif ou quota serait imposé à l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium serait inacceptable. Le commissaire européen au commerce qui déclare que si le projet des États-Unis venait à viser l'Europe, ce serait profondément injuste. Le ministre allemand d'ailleurs demande aujourd'hui une réaction très ferme. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
À Bruxelles, on affirme étudier maintenant des mesures de rétorsion.
Oui, effectivement, parce que les Européens sont vent debout contre l'intention des États-Unis d'imposer des droits de douane. Du côté de la Commission européenne, la réflexion sur une éventuelle rétorsion est déjà engagée. C'est ce que reconnaît la commissaire chargée du commerce, Cecilia Malmström. Il n'est pas question pour l'instant de divulguer quelles pourraient être les mesures européennes tant que la décision américaine n'est pas effective. Mais deux axes majeurs se dessinent. Il y a d'une part des consultations qui vont être lancées avec des partenaires commerciaux hors d'Europe. Elles pourraient avoir comme objectif le déclenchement d'une procédure à l'OMC, c'est-à-dire une saisine de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a d'autre part la mise à l'étude de mesures dites de sauvegarde, des mesures européennes, c'est-à-dire en quelque sorte de rétorsion à l'encontre des États-Unis. Là encore, dans le respect des règles de l'OMC, souligne la commissaire au commerce. Les institutions européennes sont très remontées. Le président de la commission, Jean-Claude Juncker, a expressément prévenu que l'UE n'allait pas rester les bras croisés. Un écho direct aux demandes de l'Allemagne d'une réponse ferme de la part de l'UE. C'est pas la première fois qu'une guerre de l'acier ferait rage entre Européens et États-Unis. Des mesures de sauvegarde imposées du temps de George W. Bush en 2002 avaient ainsi été attaquées par les Européens devant l'OMC. Cette procédure avait débouché un an plus tard sur leur annulation pure et simple par les États-Unis.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. On salue l'invité de la séquence interview, le député européen socialiste Emmanuel Maurel.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez toujours souhaité, vous, que l'Europe se protège finalement contre une concurrence qui serait trop vive ou même contre le dumping. Finalement, ce que fait Donald Trump, c'est ça, il se protège. Quelle est votre position sur cette guerre commerciale ?
Non, mais surtout, il y a les mots de Donald Trump qui choquent parce qu'il utilise toujours des hyperboles, la guerre commerciale. Mais il n'y a rien de nouveau. Les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, ont toujours été protectionnistes. Barack Obama lui-même a pris un certain nombre de décisions pendant ses deux mandats pour protéger l'industrie américaine, en tout cas c'est comme ça qu'il le présentait, de ce qu'on appelle le dumping. Et mais nous-mêmes, Européens, nous sommes confrontés aux mêmes débats et aux mêmes questions. Par exemple, nous avons été victimes d'une stratégie commerciale très agressive de la part des Chinois, qui ont déversé des produits, d'ailleurs de mauvaise qualité, sur le marché européen, notamment sur l'acier et l'aluminium.
Il aurait fallu se défendre.
Et à l'époque, on ne l'avait pas fait. Alors maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les règlements européens ont été modifiés. Il y a quelques mois, nous avons adopté une nouvelle directive qui permet justement de mieux définir le dumping social et de s'en défendre, parce qu'il y a une stratégie des Chinois, notamment sur la question de l'acier spécifique, mais il y a d'autres secteurs, hein, la céramique, le verre, le papier, qui menacent clairement l'industrie
est-ce
européenne.
Est-ce qu'on n'est pas dans une spirale protectionniste comme
Non,
dit,
moi je dirais pas ça, je pense que les gens sont en train de se rendre compte que le libre-échange généralisé charrie quand même un certain nombre d'inégalités, et le mieux c'est de parvenir à un juste échange, c'est-à-dire une vraie réciprocité dans les échanges commerciaux.
Emmanuel Maurel, député européen, justement, on en vient à l'actualité proprement européenne avec ce discours très attendu tout à l'heure en début d'après-midi de la première ministre britannique sur les modalités du Brexit. Theresa May qui doit défendre l'idée d'un accord de libre-échange, le plus large possible sans doute, mais il faut trouver aussi une solution à cette question de la frontière entre les deux Irlandes qui sont en quelque sorte, qui est la matérialisation de ce Brexit, de cette rupture entre la Grande-Bretagne et le continent. Le Brexit va intervenir fin mars 2019. Il menace de faire réapparaître la frontière entre la République d'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui est, comme on le sait, une province britannique. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment se présente la question maintenant pour Madame May, qui va s'exprimer dans quelques heures sur cette question ?
Oui, un exercice d'équilibriste en réalité pour la Première Ministre. Theresa May l'a dit, elle ne veut pas d'une frontière physique, pas de barbelés, pas de caméras entre le Nord et le Sud, mais elle ne veut pas non plus valider le plan prévu par l'Union Européenne. Michel Barnier, qui négocie le Brexit au nom des 27, a proposé cette semaine de donner aux Nord-Irlandais la possibilité de rester dans l'Union douanière en leur permettant du même coup de continuer à faire du commerce librement entre le Nord et le Sud de l'île. Le problème, c'est qu'il faudrait mettre en place des contrôles dans tous les ports et les aéroport pour surveiller les échanges entre l'Irlande du Nord et les autres territoires, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles. Il y aurait donc une sorte de frontière maritime au milieu du Royaume-Uni et ça, c'est totalement inacceptable pour les unionistes nord-irlandais. La Première Ministre va donc devoir choisir attentivement les mots qu'elle utilise pour évoquer ce statut à part et présenter une solution ou une esquisse de solution spécifique. Dans les extraits de son discours qui ont fuité dans la presse ce matin, on lit surtout des appels à l'unité du Royaume, à la réconciliation entre pro et anti-Brexit. Theresa May va donc tenter de rassurer, aussi bien d'ailleurs les Nord-Irlandais que l'ensemble des Britanniques, avec cette phrase « Il faut protéger les emplois et la sécurité des gens. Nous devons travailler avec l'Europe pour développer nos économies. »
Antoine Gignot, merci beaucoup. En direct de Londres, l'événement européen de cette fin de semaine, ce seront ces élections générales qui vont se tenir ce dimanche en Italie. Trois camps s'affrontent, la droite, donc est alliée à l'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, le centre-gauche qui est actuellement au pouvoir. En vertu d'un mode de scrutin, on estime à entre 40 et 45% le pourcentage des voix nécessaires pour obtenir la majorité absolue des sièges dans les deux chambres. Évidemment, ce sera difficile pour n'importe lequel de ces trois camps que j'évoquais à l'instant. Mathilde Imbertie, bonjour.
Bonjour à tous.
Cela dit, il y a encore beaucoup d'indécis, dit-on, et ça peut réserver des surprises.
Oui, deux surprises en tout cas, deux percées peuvent changer sérieusement la donne en Italie. Soit celle de la Ligue de Matteo Salvini qui renverserait les équilibres au sein de la coalition des droites dont vous venez de parler, soit la percée des 5 étoiles. Alors à droite, si Salvini fait un plus haut score que Silvio Berlusconi, c'est son parti, la Ligue xénophobe, eurosceptique qui choisira le président du Conseil. Il en a été convenu ainsi lorsque les droites se sont alliées en début de campagne. Matteo Salvini a mené une campagne tenace. Il a sillonné l'Italie du nord au sud. Il a surfé sur la crise migratoire, répétant que les clandestins déstabilisaient le pays. À voir s'il réussit à s'implanter dans le centre et le sud de l'Italie. Ce sera déterminant. Ensuite, les 5 étoiles, on sait qu'ils sont forts dans le sud précisément. Un sud touché plus qu'ailleurs par la crise. Un sud qui s'est appauvri ces dernières années et dont les jeunes s'en vont pour chercher un avenir meilleur ailleurs. Selon tous les observateurs, le mouvement anti-système devrait sortir grand vainqueur dans l'Italie méridionale. Ailleurs, c'est à voir, Antoine.
Merci beaucoup, Mathilde Averti, en direct de Rome. Emmanuel Morel, peut-être un petit mot là-dessus. La gauche, assez mal en point, on le voit en Italie aussi, on pourrait dire. Finalement, il y aura peut-être un accord avec Berlusconi pour sauver l'Europe.
Non, mais c'est ça qui est le plus traumatisant. Vous avez une gauche qui est totalement émiettée, puisque vous avez plusieurs, vous avez parlé que du centre-gauche, oui. Mais il y a aussi toute la gauche italienne, il en reste plus grand-chose. Et puis un parti démocrate qui est tellement mal en point qu'il envisage très sérieusement de s'allier avec Berlusconi au nom d'un principe qui paraît quand même ahurissant avec notre regard de français, hein, que Berlusconi est présenté comme un rempart au populisme. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je suis très soucieux parce que généralement ce qui se passe en Italie préfigure souvent ce qui se passe dans le reste des pays européens. Donc il faut être très vigilant par rapport à cette situation.
On dit un mot de la Suisse où il y a une votation aussi organisée dimanche pour ou contre la redevance qui finance dans le pays l'audiovisuel public à hauteur de 70%. Elle a été appelée le BILAG. On est en ligne avec Cécile de Carvaz-Doué qui est sur place. Bonjour.
Bonjour.
En principe, donc, les partisans du service public devraient l'emporter, mais pas forcément très largement. Vous suivez pour nous cette campagne?
Oui, ici, la campagne a été très dure, l'une des plus violentes qu'ait connue la Suisse, et tellement dure même que plus personne ne souhaite trop en parler aujourd'hui, d'autant que 90% des Suisses ont déjà voté par correspondance. Du côté des défenseurs du service public de l'audiovisuel, on est plutôt confiant, c'est vrai. Les derniers sondages montrent que la tendance est inversée, preuve, disent-ils, que le travail d'information sur les conséquences de la disparition de la redevance a été salutaire. Mais ce matin, bloqué par la neige, à la gare de Lausanne, un chauffeur suisse me confiait sa colère face au matraquage anti-Nobilag qui inonde les médias depuis 2 mois. C'est la presse et la culture qui défend ses intérêts. Mais ce que montre cette votation, c'est qu'il y a une colère sourde qui monte dans la population. Les Suisses ne sont plus aussi tranquilles qu'avant parce que la classe moyenne est en train de fondre et nous avons tous des problèmes pour boucler nos fins de mois. Or, on est obligé de payer 400 euros par an pour financer des télés et des radios publiques. On n'en a tout simplement plus les moyens. Un discours que contredit pourtant la réalité, parce que dans les faits, les télé et radios publiques suisses ont des résultats impressionnants. 95% des Suisses les consomment au moins une fois par semaine et les journaux d'information peuvent atteindre les 60% d'audience. Il faut dire que la SFR couvre tout le territoire des grandes villes en Suisse jusqu'aux coins les plus reculés dans les montagnes et cela dans les 4 langues officielles du pays. Il y a 7 télévisions, 17 radios publiques auxquelles s'ajoutent aussi 34 radios et télévisions privées qui reçoivent elle aussi, une part de redevance. Un vote Nobilag voudrait donc dire le chômage pour 13 500 employés et des répercussions économiques sur tout le monde de la culture et bien sûr sur le sport, deux secteurs largement soutenus par ce service public.
Merci beaucoup Cécile de Carvaz-Doué, vous étiez en direct de Lausanne. On vous retrouvera bien sûr pour nos prochaines éditions pour suivre également ce scrutin. On revient en France pour terminer avec le gouvernement qui dévoile son arbitrage sur l'assurance chômage. La ministre Muriel Pénicaud se dit en phase avec le texte de l'accord, mais elle affirme vouloir aller plus loin que les partenaires sociaux, notamment sur l'indemnisation chômage des démissionnaires. Elle faisait un point de presse ce matin, Catherine Pétillon.
Ruth Grenelle, on semble chercher à apaiser les relations avec les partenaires sociaux. Ce matin, la ministre du Travail a répété qu'elle les avait écoutés et de fait, une bonne partie des dispositions prévues dans leur accord devraient être reprises dans la future loi, notamment la création de nouveaux droits pour les démissionnaires ayant un projet d'évolution professionnelle. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Condition à avoir cotisé pendant 5 ans, les partenaires sociaux avaient prévu 7, vous le disiez. Autre nouveau bénéficiaire, les indépendants, ils recevront 800 euros pendant 6 mois en cas de liquidation judiciaire et si leur bénéfice était d'au moins 10 000 euros par an, et cela sans avoir à cotiser plus, la mesure sera financée par la hausse de la CSG. Reste l'épineuse question des contrats courts et des sanctions pour les entreprises qui en abusent. L'exécutif donne quelques mois aux branches professionnelles pour proposer des outils de lutte contre la précarité, faute de quoi il appliquera un bonus-malus pardon, la loi en tout cas lui donnera la possibilité de le faire.
Alors, quid de la suite maintenant sur ce projet d'assurance chômage?
D'abord, il reste encore des questions à trancher. Par exemple, les agents de Pôle emploi chargés du contrôle des chômeurs seront plus nombreux, mais avec quel régime de sanctions, cela reste à préciser. Autre gros morceau de la réforme à venir, dont on ne connaît pas le détail, la gouvernance, et notamment donc la place que pourrait prendre l'État dans la gestion de l'UNEDIC assurée par les partenaires sociaux. Ces derniers doivent rediscuter avec le ministère la semaine prochaine, c'est-à-dire après les annonces prévues lundi sur la formation professionnelle. Et là, il faudra voir si la ministre ne lâche pas d'un côté pour reprendre de l'autre. Sa volonté de modifier l'architecture du système de la formation pourrait cette fois susciter la colère des partenaires sociaux.
Catherine Pétillon, merci. Ça nous ramène à notre invité aujourd'hui, Emmanuel Morel, député européen. Et vous êtes donc candidat pour reprendre la direction du Parti Socialiste.
En effet.
Alors, on a envie de vous dire... Il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut aussi peut-être un peu d'inconscience ou...
Peut-être les trois à la fois, mais il faut surtout avoir une conviction, celle qu'il est possible de relever le Parti Socialiste, et ensuite que le Parti Socialiste a un rôle à jouer dans la vie politique, c'est mon cas. Moi je pense qu'on peut relever le Parti Socialiste pourvu qu'on soit clair sur un certain nombre de choses, et j'écoutais ce que vous venez de dire à l'instant, la première chose c'est qu'il faut qu'on soit clair par rapport à Emmanuel Macron. Il y a eu trop d'ambiguïté, trop de confusion au début de ce quinquennat. Des socialistes ont été complaisants avec le nouveau président. Et moi, je pense que 6 mois après, il est temps de dire avec force que d'abord, cette politique n'est ni de gauche ni de gauche. Et que Emmanuel Macron s'attaque quand même avec beaucoup de méthode à tout ce qui fait notre modèle social. La semaine dernière, c'était à la fois l'hôpital public, une annonce sur les fonctionnaires, la réforme de la SNCF qui est annoncée, qui remet en cause quand même un certain nombre de choses, et notamment l'égalité entre les territoires, parce que moi c'est ça qui m'inquiète hein, dans le rapport Spinetta. Donc clair par rapport à Macron, clair par rapport à notre bilan, parce qu'on peut pas mettre ce débat sous le tapis. On a été au pouvoir pendant 5 ans, des choses bien ont été faites, mais enfin on a fait aussi des erreurs, des fautes. Et je pense notamment à la fin de ce quinquennat, avec la déchéance de nationalité, avec la loi travail qui nous a coûté cher. Hein. Claire enfin dans notre volonté de reprendre langue avec toute la gauche et d'essayer de participer à un rassemblement de la gauche, parce qu'il faudra être nombreux et forts pour s'opposer justement à cette politique libérale qui est en train d'être mise en œuvre. À partir du moment où on a cette clarté, et puis qu'on s'assume comme socialiste, hein, moi je suis pour un socialisme décomplexé, qui se cache pas derrière son petit doigt, qui assume ses mots, ses valeurs, sa grille de lecture de la société, eh bien il est possible de repartir de l'avant avec des militants qui sont certes traumatisés, mais qui sont en même temps disponibles pour continuer ce chemin.
Stéphane Robert.
La clarté, le rassemblement, on n'y est pas encore, parce qu'il y a un véritable émiettement des forces à gauche. Vous avez Mélenchon en concurrent, vous avez Benoît Hamon également. Vous n'êtes pas d'accord, notamment sur les questions européennes, sur le diagnostic. Comment est-ce que vous faites le rassemblement? Est-ce que vous n'êtes pas tous en concurrence, là, un peu sur le même créneau?
Non, mais il y a incontestablement un émiettement. On pourrait même dire une décomposition. Mais comme d'autres pays d'Europe, on parlait d'Italie à l'instant, c'est le cas. Et en même temps, moi, je suis assez optimiste, parce que je pense que la recomposition, elle va avoir lieu. Pourquoi? Parce que précisément, on a face de nous un gouvernement qui met à mal un certain nombre de choses auxquelles on tient, et que à partir du moment où on se met d'accord pour protéger les gens les plus modestes, la jeunesse, les ouvriers, les employés qu'on doit reconquérir, eh bien il va y avoir des luttes qui se mettent en place. Hein, le 22 mars, il y a une manifestation. Moi, j'espère que les socialistes y seront. Et dans cette manifestation, il y aura des écologistes, des communistes, des insoumis. Et c'est précisément comme ça qu'on construit le rassemblement de la gauche. Sur le terrain, des luttes et aussi localement, hein, dans des projets municipaux ou cantonaux. C'est quelque chose d'exaltant en même temps et de possible.
Vous disiez début janvier, à l'occasion d'une interview au groupe EBRA, qu'il faut renouer avec les classes populaires et les classes moyennes. Mais est-ce que vous n'êtes pas là-dessus en concurrence, alors même au-delà de la gauche, puisque c'est la volonté de Laurent Wauquiez, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, tout ça, ils veulent tous nouer le fil avec les classes populaires.
Oui, mais moi je pense que nous devons renouer avec notre base sociale. Et la base sociale des partis de gauche, traditionnellement, c'était bien sûr les ouvriers, les employés du public et du privé, et la jeunesse. Et pour ça, il faut être à l'écoute de leurs revendications. Parce que vous dites, Laurent Wauquiez veut renouer avec les classes populaires, mais quand on parle des conditions de vie matérielles, c'est la droite dans ce qu'elle a de plus caricatural. Moi, je pense que, par exemple, une attention à la question des salaires. Moi, je pense qu'il faut que le Parti Socialiste mène une grande campagne sur les salaires. Le salaire minimum, l'égalité salariale, l'échelle des salaires, la redistribution des richesses, ça fait partie de notre code génétique. Et plus largement, le partage des richesses, partage des pouvoirs, partage des savoirs, ça c'est l'identité socialiste. Et c'est là-dessus qu'on reconquérera un électorat qui est disponible, mais qui a été déçu, plus que déçu d'ailleurs, par notre pratique du pouvoir et par ce que nous avons fait aux responsabilités.
Le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, peut-être qui protestent ou qui ne sont pas contents, mais Par ailleurs, l'idée que maintenant s'est installé un nouveau monde prévaut malgré tout toujours. On sent qu'il n'y a pas tellement de possibilités de renverser ce qui est en cours.
Il y a du fatalisme, c'est vrai, parfois. Mais en même temps, regardez, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de mouvements émergent pour demander plus de coopération, plus de régulation, plus de solidarité. Il y a une contestation forte du système économique dominant. Et nous, nous devons prendre appui sur cette contestation et lui donner un débouché politique. C'est pour moi le rôle d'un parti socialiste moderne.
Est-ce que le clivage droite-gauche, c'est encore valable? Vous ne faites pas la même analyse là-dessus que Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui parle de peuple?
Non, je pense qu'il y a plusieurs clivages qui se superposent, mais le clivage droite-gauche, à mon avis, reste structurant dans la vie politique. Et en tout cas, c'est à nous d'en faire la démonstration.
Voilà, vous continuez à faire campagne, Emmanuel Morel.
Je fais campagne
tous les jours. Vous avez beaucoup de monde à vos meetings?
Beaucoup de monde, ça dépend des fédérations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des militants qui sont à la fois qui se posent des questions interrogatives, mais qui ont envie d'y croire parce que on peut ressusciter l'espoir à gauche.
En un mot, vous êtes le tenant de l'aile gauche du Parti socialiste qui n'a jamais remporter l'élection? Vous craignez pas encore une fois d'être minoritaire?
Non, mais c'est pas, je suis pas de l'aile gauche, moi je suis de gauche. C'est pas parce que les autres ont dérivé parfois très à droite, moi je suis toujours resté au même endroit. C'est ça qui explique qu'on me caractérise comme étant aile gauche. En réalité, je suis au centre de la gauche.
Emmanuel
Morel.
C'est ça
qui fait ma spécificité.
Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La neige, le verglas remonte vers le nord et l'est de la France. Situation s'améliore dans le sud-est et notamment dans l'Hérault. Température 2 à 16 degrés cet après-midi, 17h. Le magazine consacré à la schizophrénie. Schizophrénie, vivre avec. Reportage de Sarah Maquet, réalisé par Yacine Bouzard. Présentation Aurélie Kiffer. Journal 18h avec Benoît Bouscarel.